Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie déjà d'être venu écouter l'histoire de mon livre et de mes deux livres, d'ailleurs, sur mon aïeul, Gustave Eiffel. Moi-même, je ne suis ni conférencier ni historien. Je suis un homme de cheval et mon aventure a été un petit peu bousculée, on peut dire, dans les années 1989, alors que j'étais invité à l'inauguration, enfin au centenaire de la Tour Eiffel. Je m'aperçois que sur le pont d'Iéna, il n'y a personne de ma famille et que finalement, la Tour Eiffel et la mairie de Paris ont oublié d'inviter la famille. Enfin, la famille, c'est pas très important, mais enfin, quand même, Gustave Eiffel a apporté sa contribution, on peut dire, en tant que ingénieur et en tant que, il a apporté un symbole majeur, évidemment, qui est cette Tour Eiffel, qui est le symbole du bien vivre ensemble, qui est un symbole majeur maintenant et qui est aussi le symbole de Paris et de la France et de beaucoup d'autres valeurs. Donc je m'inquiète un peu en m'en amusant vis-à-vis de l'attaché de presse de la mairie de Paris qui me dit, écoutez, monsieur, effectivement, c'est très curieux, il n'y a personne. Donc, écoutez, restez là. Il ne me demande même pas ma carte d'identité, ni mon passeport, rien du tout. Restez là, ne bougez pas. On va voir. Et là, Claude Chirac arrive dans le sillage de l'attaché de presse. Et j'avais un badge traiteur, puisque j'ai aidé un de mes amis qui s'occupait du service traiteur. Je pensais qu'il y avait quand même des parents un peu plus âgés qui étaient là. Moi, j'étais là vraiment pour aider cet ami. Et ça m'amusait de voir ce centenaire de près, parce que je vous raconterai tout à l'heure en deux mots. J'ai vécu beaucoup d'intimité de la propre fille de Gustave Eiffel, Valentine, qui était sa fille cadette. Donc, je me retrouve avec un nouveau badge, invité spécial numéro 02. Et je me trouve sur le pont d'Iéna, au deuxième rang, derrière M. Jacques Chirac et derrière M. Ronald Reagan, à qui je suis présenté, etc. Et donc je passe une très bonne soirée, finalement. Je vais manger les petits fours de mon ami que j'étais censé servir. Et je passe une très bonne soirée, escorté de près par Claude Chirac. Quand je suis revenu à Bordeaux le lendemain, puisque j'habite à Bordeaux, mais enfin, même si je descends de la branche Eiffel, Paris, n'est-ce pas ? Je me dis quand même dans ma voiture, la route est longue, c'est quand même incroyable que la famille n'ait pas été invitée. Et je réfléchis et je me dis quand même, ce nom Eiffel, finalement, c'est un nom aussi, c'est un nom de famille, certes. Il a été un peu occulté parce que Eiffel, je vous raconterai tout à l'heure, a eu beaucoup de difficultés. Hein. Tout ça n'est pas arrivé tout seul. C'est un homme qui a été tenace, c'est un homme qui a été extrêmement déterminé et qui a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Parce que donc, comme il a beaucoup innové, évidemment, il était souvent pas très bien vu, même si il a eu beaucoup d'appui, beaucoup d'amitié et beaucoup d'aide de la part et de respect de son entourage, rapport à son travail. Donc je reviens à Bordeaux, effectivement je me dis il faut quand même faire quelque chose et je me dis bah, qu'est-ce que je vais faire. Nous avions un bout de terrain à Salbeuf, à Vaquet, près de. Et là, je me dis, bien écoutez, je vais finalement aller voir le viticulteur à qui nous avions vendu les vignes qui appartenaient autrefois à Gustave Eiffel. Et je lui dis, écoutez, si on faisait une cuvée de domaine Eiffel, ça me permettrait peut-être de parler un petit peu de mon ancêtre, etc. Je suis pas un homme du vin, mais enfin. C'est une occasion, comme j'ai des chevaux, je voyage pas mal dans le monde avec les chevaux. Et puis finalement, je fais du vin Eiffel. Et donc, ça ne marche pas très bien d'ailleurs. Je m'en occupe. Je le fais régulièrement. Je fais à peu près quelques bouteilles par an. Ça me permet de donner ça un petit peu aux gens qui viennent monter à cheval. Ou ça me permet de diversifier un peu mes activités d'exploitant agricole que je suis. Et donc, quelques années plus tard, je reçois, alors que je travaillais mes chevaux tranquillement chez moi, une assignation de la part d'un grand groupe de travaux publics qui m'assigne et qui me dit, écoutez, monsieur, vous utilisez le nom Eiffel, mais vous n'avez pas le droit de le faire, parce qu'à cause de la loi Evin, nous sommes un groupe de travaux publics et nous utilisons cette marque Eiffel depuis 73 ans. Ben écoutez, je leur dis, écoutez, je suis très heureux. Moi, j'ai été élevé dans les souvenirs de Gustave Eiffel. Je suis extrêmement surpris que vous puissiez me demander, puisque j'avais déposé des marques, bien évidemment, pour pouvoir faire que ma petite entreprise de vin, qui vendait quelques bouteilles par an, puisse ne pas être concurrencée. Je lui ai dit, écoutez, je ne comprends pas ce que vous faites. Trouverons une solution. Moi, vous faites la pyramide du Louvre, vous avez fait le viaduc de Millau, vous avez fait beaucoup de choses qui sont magnifiques, effectivement, mais de là à les m'assigner, je trouve ça idiot. Ils me disent, écoutez, on va en discuter. Ils discutent avec leur comité et ils reviennent vers moi avec une jolie lettre en disant, écoutez, monsieur, non, on ne peut pas rien faire. Seule la justice tranchera. Alors je me suis battu, vous voyez, c'était un peu le pot de fer contre le pot de terre, la presse en est un petit peu relayée cette aventure, et en 2011 j'ai gagné contre ce groupe et j'ai fait interdire à ce groupe d'utiliser sous quelque forme que ce soit le nom Eiffel, toutes leurs marques ont été annulées. Et j'ai démantelé, si vous voulez, 73 années, entre guillemets, d'imposture, puisqu'ils n'avaient pas le droit à ce nom et que ce n'était pas les volontés de mon ancêtre que de garder un nom dans cette entreprise, puisqu'il l'avait retiré à une époque où il avait décidé de le faire. Il l'avait retiré d'ailleurs avec les encouragements et les félicitations de son conseil d'administration. Donc, à la suite de ça, eh bien, j'ai eu évidemment, vous imaginez, quand on gagne, que surtout vis-à-vis de grands groupes comme ça, moi-même qui suis exploitant agricole, certes descendant, mais enfin, les gens ont dit, celui-là, c'est vraiment l'homme à battre. Et je suis toujours un peu l'homme à battre, certainement, parce que ces gens-là, eh bien, évidemment, ont des moyens très importants. Ils font un peu ce qu'ils veulent et en même temps... ils continuent d'utiliser aujourd'hui la renommée de mon ancêtre. Ils ont encore des sociétés qui portent ce nom et ils continuent, si vous voulez, à le faire. Bien, tout ça, je me suis dit, plutôt que d'aller me battre, continuer à me battre, je n'ai pas les moyens d'abord, ni financiers, je me suis dit, écoutez, je vais bien revenir sur ma vie. J'ai la chance d'avoir une fille qui monte à cheval aujourd'hui, donc qui a repris un peu l'exploitation. Nous avons des chevaux de sport. Mon père avait créé le jumping de Bordeaux. Nous sommes traditionnellement dans les chevaux depuis longtemps. Ma sœur a été championne de France, elle organise des concours, elle est assez médiatique parce qu'elle était mariée avec Julien Clerc. Alors évidemment, tout le monde connaissait Julien Clerc, beaucoup moins que Gustave Eiffel d'ailleurs. Et donc, je me suis donc décidé à rendre hommage à cet homme, ayant eu la chance de passer des moments d'exception. J'étais partagé, jeune, entre une vie un peu rustique et terrienne au milieu des chevaux et une vie de grande bourgeoisie avec Valentine, mon arrière-grand-mère, avec qui j'ai eu la chance de vivre jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc des moments d'adolescence tout à fait exceptionnels, je m'en souviens très bien, ça m'a beaucoup marqué. Elle me parlait beaucoup de son père, elle avait une grande admiration pour son père, et je suis un peu le seul des descendants à avoir eu la chance, je peux dire, de vivre avec la propre fille de Gustave Eiffel des moments d'exception. Dans les propriétés de l'ingénieur, au milieu de ses objets, au milieu de ses bibliothèques, et bien sûr avec un souvenir vivant, celui de sa fille, et je m'en souviens très bien, vous savez, quand on a 14-15 ans, on est quand même à l'affût d'histoire. Elle me parlait beaucoup des voyages de son père, elle me parlait beaucoup de sa sœur Claire, son aînée, de sa sœur Laure, qui était aussi un peu plus âgée qu'elle, et qui est morte, tante Laure est morte en 1956-57. Donc j'allais à Paris, si vous voulez, pendant les grandes vacances, et dans les propriétés de l'ingénieur, qui étaient des très jolies propriétés qu'il avait un peu à travers l'Europe. Donc, Gustave Eiffel, maintenant on va parler de lui, puisque je crois que c'est ça pour ça qu'on est là. Donc voilà à peu près ma petite histoire, si vous voulez, voilà pourquoi je me suis intéressé. Et finalement, c'est un grand plaisir pour moi et une très grande fierté de pouvoir parler de ce grand homme, de son travail. Je suis rentré dans les archives familiales. J'ai la chance d'avoir aussi pas mal d'archives qui me sont revenues de Valentine, et notamment la biographie industrielle et scientifique de Gustave Eiffel, celle qu'il a écrite 3 mois avant sa mort et qu'il a léguée à chacun de ses enfants. Cette biographie m'a inspiré pour un livre, donc un grand livre, qui s'est très bien vendu. Je vous excuse de dire ça, mais c'est vrai que j'ai été moi-même surpris de la vente de ce livre, puisqu'il s'est vendu, je crois, autour de 15 000 exemplaires, ce qui est incroyable. Donc ça prouve que Gustave Eiffel n'est pas connu encore suffisamment, on ne le connaît pas. Le fait qu'un descendant en parle, il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi. Je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas ni un conférencier ni un historien. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi qui peuvent parler de ce grand homme, des ingénieurs qui sont plus qualifiés. Mais si vous voulez, j'ai retracé dans ce livre bien sa vie de la manière la plus simple possible, en rappelant sa détermination, en rappelant son courage, en rappelant ses qualités humaines, en rappelant ses innovations, en rappelant d'où il venait et en essayant de tirer un bilan. J'espère qu'un jour, nous avons un fonds. Moi, j'ai un fonds. Le musée d'Orsay a reçu un fonds assez important de ma cousine Amélie Granet, qui l'a catalogué au musée d'Orsay. Il y a aussi un fonds, quelques fonds qui restent un peu dans la famille, dans d'autres branches. Je souhaiterais qu'il y ait un musée sur Gustave Eiffel parce que c'est un homme qui a été remarquable. Il est né en 1832, il fait ses études à l'école de Dijon, c'est pas un très bon élève. Il considère qu'il n'apprend rien du tout, qu'il n'y a que des forces punitions et qu'il trouve ça assommant. Il est élevé par sa grand-mère qui est aveugle, il vit un peu seul, reclus, mais c'est un garçon intelligent, c'est un garçon vif. Et en même temps, ses parents travaillent beaucoup, sa mère travaille beaucoup puisqu'elle a un commerce de charbon. Son père qui était dans l'armée l'a rejoint pour l'aider. Et ensuite, ce petit garçon se référera beaucoup à sa mère. Car sa mère va l'aider à diverses périodes de sa vie pour pouvoir lui amener un peu d'argent et lui permettre de continuer son aventure industrielle, notamment. Il présente Polytechnique, il est admissible, mais il est recalé, et il rentre donc à Centrale. Et là, il se met bien sûr à bien travailler, puisqu'il en ressort relativement bien classé. Je crois qu'il est 13e à peu près sur ce qui était une bonne place. Et au moment de Centrale, en 1855, il est engagé, après avoir réussi Centrale, il est engagé comme employé chez son beau-frère, Joseph Collignon, qui a une fonderie, il apprend un petit peu le fer. Il était prévu que Gustave Eiffel se lance dans la chimie, parce qu'il avait un de ses oncles, Jean-Baptiste Molrat, qui avait une affaire qui marchait bien, une affaire de peinture, une affaire de vinaigre, qui était assez prospère. Et finalement, une brouille de famille fait que Gustave Eiffel se dirige vers la construction. Il rentre chez Charles Neveu, qui est présenté encore par sa mère. Et là, il se voit confier un premier travail à Saint-Germain, qui est la conception d'un pont. Ensuite, nous venons à Bordeaux, évidemment, où là, il est nommé chef de chantier d'un pont qui relie le réseau d'Orléans au réseau du Midi, et qui s'appelle le pont, la passerelle Saint-Jean, enfin la passerelle Eiffel. Ce pont est dessiné par Regnault, hein, n'est-ce pas ? Il est, et Gustave Eiffel en est le chef de chantier. Il mène à bien son chantier dans les délais. D'un point de vue technique, il inventera là la standardisation des pièces, puisqu'il est chargé vraiment de régler ce chantier. Il s'apercevra que la standardisation des pièces lui permet d'aller plus vite, d'être dans les temps. C'est un meneur d'hommes, il est intelligent, et il est rapide, et il se fait apprécier. Il plonge même dans la Garonne, enfin, pour sauver un de ses ouvriers qui est tombé dans la Garonne. Et il se fait remarquer, puisqu'il respecte les délais qui lui ont été impartis. La suite de ça, l'entreprise de Charles Neveu dépérit un peu et il s'associe avec un dénommé Siring, qui est un centralien comme lui, mais qui était riche. Et Gustave Eiffel s'installe donc en 1864 à Levallois-Perret. Il ne passera que 3 ans à Bordeaux. Il aura quand même l'occasion de rencontrer dans sa vie privée pas mal de jeunes filles bordelaises qui, finalement, renseignements pris, sur ce jeune Gustave Eiffel, le laisseront tomber parce qu'elle trouve que sa fortune n'est pas suffisante. Donc il en sera assez d'ailleurs dépité, certainement. On le considère comme un jeune ingénieur, certes, mais les notaires considèrent que sa fortune n'est pas suffisante. Et lui, évidemment, il voulait essayer de trouver une jeune fille de bonne famille qui puisse peut-être l'aider à continuer. Alors il se retourne toujours vers sa mère, qui finalement le renfloue à chaque fois, parce qu'il est assez dépensier quand même. Et il dit à son père, écoutez, trouvez-moi une femme. Alors son père et sa mère étaient à Dijon, puisqu'il était dijonnais. Donc trouvez-moi une femme qui soit une bonne ménagère, qui puisse faire de beaux enfants, qui serait bien à moi et qui ne soit pas trop compliquée. Parce que c'est finalement ce qui se passe en la personne de Marguerite, qui était sa femme, donc qu'il épouse quelque temps plus tard et avec qui ils ont eu 5 enfants. Ils ont été très heureux, je crois. Malheureusement, elle est morte très jeune. Parce qu'elle est morte à 32 ans, laissant 5 enfants à Gustave Eiffel, qui ne s'est jamais remarié et qui s'est plongé dans le travail, on peut dire, laissant à sa sœur, Laure, le soin de l'aider dans l'éducation de ses enfants, puisque Laure a été veuve assez jeune, et laissant aussi à sa fille aînée, Claire, qu'il a vraiment suivi toute sa vie, on peut dire, et qui a élevé donc mon arrière-grand-mère Valentine, n'est-ce pas ? Claire était une femme qui était une forte femme qui a partagé vraiment toute l'intimité de Gustave Eiffel. C'était sa préférée. Et même au moment à la fin de sa vie, il a dit aux autres, je ne sais même pas si vous devriez avoir quelque chose. C'était quelqu'un d'assez autoritaire, sans doute. Mais enfin, il a beaucoup avantagé, on peut dire, Claire. Voilà, ce qui est évidemment dans la famille, ça se sait. Claire a été avantagée, mais personne n'a osé rien dire. Et tout le monde l'a fort bien compris, parce que Claire a quand même passé toute sa vie avec son père. Son père ne s'est jamais marié, il lui a permis de faire toutes ses expériences et tout ce travail remarquable. Donc, alors à la suite de ça, eh bien, quoi vous dire, Gustave Eiffel se lance évidemment dans la construction. Le pont de Bordeaux lui a ouvert les portes. Il construit beaucoup en France. Les lignes de chemin de fer se multiplient. Et ensuite, il a des commandes un peu partout dans la France entière. Tout à l'heure, si ça vous intéresse, posez des questions sur telle ou telle œuvre que vous connaissez qui pourrait vous intéresser. Il invente un tas de procédés. Je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans la salle, mais si vous voulez, il est inventif et il sait l'être avec compétence et efficacité. Alors je vais noter que lors des travaux des viaducs de Sioule et de Neuvial, il dispose des équerres de fer dans les moules où sont coulés les arbalétriers en fonte. Rendus solidaires des pièces de fonte, ces équerres permettent de les assembler par rivetage avec les entretoises de fer. Les pièces de fonte ne risquent donc plus de casser au rivetage. Il invente un châssis de lançage des ponts. Il invente également des galets, un système de lançage par galets qui permettent aux poutres de rouler sur le haut des piles. Dans la construction du pont du Douro, il décide que les ponts doivent être entièrement en fer et non plus en fonte. À cette époque, si vous voulez, les ponts métalliques en arche ne sont plus une nouveauté, mais celui sur le Douro, Portugal, de par les dimensions qui n'ont jamais été atteintes, en est une, car c'est un pont de 574 mètres de longueur et il n'y a pas d'arche au milieu. Et avec Théophile Siring, dont je vous ai parlé tout à l'heure, il réussit cet exploit pour la première fois en Europe de traverser une rivière sans pont, sans arche intérieure, sans, si vous voulez, c'est un pont qui fait la taille du pont de Saint-André-de-Cubzac, à peu près, voyez-vous, et qui n'a pas d'arche intermédiaire. Donc, il n'y a aucun appui à l'intérieur du fleuve. Donc, en ce sens, c'était une nouveauté extraordinaire. Là, il se fait remarquer, évidemment. Il a encore des innovations qui permettent des gains de productivité, de sécurité et qui permettent surtout de baisser les prix. À Douro, il était en concurrence contre des grosses entreprises, contre Schneider, contre Five Lils, contre Gouin ou des grosses entreprises qui étaient installées depuis fort longtemps. Et il est moitié prix, tout simplement. Donc, on s'est même interrogé pour savoir s'il pouvait y arriver. Il a tenu les délais et il a construit sans dépasser le budget. La technique du porte-à-faux pour le montage est un procédé nouveau. Il est inventé par Eiffel. Le montage s'effectue simultanément sur les deux rives et ça permet ainsi un gain de temps important. Les deux moitiés de l'arche, en fait, avancent l'une à la rencontre de l'autre, soutenues par des câbles. À l'inauguration de cette technique, lors de la rencontre à la clé, on constate une déviation minime de seulement 1 cm, qui disparaît sous l'effet des broches de montage, ce qui est quand même exceptionnel pour une première. Là où il y avait des difficultés, l'homme est audacieux, il ose, alors que les autres, eh bien, hésitent, ou on ne sait pas exactement comment faire, ou prennent des marges considérables, ou sont deux fois plus chères, n'est-ce pas ? Gustave Eiffel a de l'audace, il a du génie, il sait organiser les chantiers, il est vif, et donc il remporte effectivement des constructions tout à fait exceptionnelles. L'exposition de 1878 donne à Eiffel aussi l'occasion de présenter un matériel innovant de travaux publics, la grue sans fondation, on le sait moins. Cette grue qui est constituée par un pivot tournant en fer d'une force de 3 à 10 tonnes, placée dans un cuvelage en fonte de grand diamètre. Cette importante plaque de fonte est posée à même le sol. Il n'y a pas besoin ni de creuser, ni besoin de contrepoids. La grue arrive en pièces détachées, facile à transporter et à démonter. Elle servira aussi pour la tour Eiffel, bien évidemment. La construction du viaduc de Garabit, qui est vraiment, on peut dire, la grande construction d'Eiffel juste avant la construction de la tour Eiffel, apporte aussi de nombreuses innovations techniques. Il abaisse le niveau de la voie par rapport à la partie haute du tablier. Les grandes poutres qui s'envolent pour former les bords de l'arc, les arbalétriers, comportent 3 faces au lieu de 4 à porteaux. Les piles en maçonnerie sont creuses. On utilise moins de métal, elles sont donc moins lourdes et plus élégantes. Elles sont de plus visitables et donc facilitent les contrôles de l'entretien, ce qui est une fois de plus un gage de sécurité et d'économie. Les faces externes de l'arche ne sont pas verticales mais obliques pour opposer une meilleure résistance à la force du vent. Le vent a été un ennemi, on y reviendra tout à l'heure, puisque Gustave Eiffel a été aussi le pionnier de l'aérodynamisme moderne. C'est lui qui a inventé l'aérodynamisme, on peut dire, puisqu'il a inventé la première soufflerie qui permettait l'aérodynamisme des bâtiments, aussi bien que des voitures et des avions, par la suite, nous le verrons tout à l'heure. Alors, je reviens à Garabit. Donc, le tablier horizontal n'est pas continu. Eiffel crée des coupures pour supprimer les efforts intérieurs produits par l'effet des charges dissymétriques qui agissent sur l'arc. Le talent d'ingénieur de Gustave Eiffel s'est donc forgé dans la construction de ponts métalliques, dans un grand souci de sécurité et d'efficacité. Mais il est également l'inventeur, et ça lui a porté beaucoup d'argent, de ce que on pourrait appeler aujourd'hui le préfabriqué. L'originalité de la construction Eiffel est que tout est préparé en usine. Le façonnage des pièces est effectué en usine. Les pièces sont calculées puis dessinées avec la plus grande précision par le bureau d'études de la société. La fabrication est ensuite réalisée avec minutie, ce qui permet un assemblage parfait sur le chantier de montage. Une fois encore, gain de temps, gain de performance et gain d'argent. Nous l'avons vu tout à l'heure. Ce principe nous paraît simple aujourd'hui, mais à l'époque, il a fallu résoudre toute une série de contraintes. Pour faciliter le transport de ces ponts préfabriqués dans des pays où les chemins sont souvent inexistants, les différentes pièces composant le pont devaient être légères. Le pont lui-même doit être léger pour faciliter le montage. Le plus souvent, ces ponts sont simplement posés sur les berges des deux rives, ce qui évite de coûteuses fondations. Il invente ainsi des ponts portatifs démontables qu'il envoie à travers le monde entier. Et il y a une série de 124 ponts, enfin 109 tabliers qui sont encore en Chine, ce qui est incroyable aujourd'hui. Il en envoie beaucoup, bien entendu, en Cochinchine, à l'époque, qui était le Vietnam actuel, puisque c'est une des colonies françaises. Mais un pont portatif Eiffel est un vrai jeu de construction. Il l'envoie en notice, avec une notice. Il ne se déplace très rarement sur place, sur le chantier, mais il envoie à travers le monde entier, donc dans des caisses en bois, ces morceaux de fer avec une notice qui sont assemblés sur place par un chef de chantier qui arrive et qui sont assemblés par la main-d'œuvre locale. Ansart, c'est un homme qui est tout à fait extraordinaire et qui est très en avance, puisque c'est la main-d'œuvre locale qui assemble, par exemple, au Mexique, une église qui est au milieu de nulle part. On trouve une église qui est un marqué établissement Eiffel. Eh bien, cette église a été transportée à dos de mulet avec des pièces détachables. C'est de la main-d'œuvre locale qui l'a transportée et qui l'a assemblée. Les ponts portatifs peuvent atteindre de 9 à 24 mètres. ce qui est quand même pas mal, et même des trains ou des fortes charges peuvent passer dessus. Mais il n'a pas été visionnaire seulement en matière de construction de ponts. Il a adapté la structure des piles de ponts pour concevoir l'ossature de la Statue de la Liberté. Elle se compose de 4 arbalétriers formant 4 faces, dans lesquelles sont disposés des treillis en croix de Saint-André, conférant solidité, rigidité à l'ensemble. Statue de la Liberté donc, avait été été offerte par la France aux États-Unis. Elle avait été au départ, le travail avait été confié à Viollet-le-Duc qui est mort. Bartholdi en a fait bien sûr la sculpture. Et quand Viollet-le-Duc est mort, Bartholdi a appelé Gustave Eiffel pour pouvoir la faire tenir dans cette rade de New York. Elle était montée à Paris, elle était transportée à New York. Et d'ailleurs, l'année prochaine, c'est le 130e anniversaire de l'inauguration de la Statue de la Liberté. Donc moi, je préside une association qui s'appelle Les Amis de Gustave Eiffel. Cette association est forte aujourd'hui de près d'un millier de membres à Paris. Donc c'est quand même encore une chose qui intéresse le travail de Gustave Eiffel. Il a donné, me disait Valentine, bonheur et fierté à la France et au monde entier. Donc c'est vrai que je suis moi-même étonné, si vous voulez, du chemin que j'ai parcouru en tant que modeste exploitant agricole, si vous voulez, et aujourd'hui m'intéressant à mon ancêtre. Ça a un écho quand même qui est tout à fait remarquable. Et ça me fait plaisir de parler de ça parce que les gens connaissent la Tour Eiffel. Tout le monde connaît la Tour Eiffel, on va y venir, puisque la Tour Eiffel est son œuvre majeure. La Tour Eiffel, pour moi, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt des réalisations de ce grand homme, si vous voulez. Et la Tour Eiffel, tout le monde, on parle de Tour Eiffel, effectivement, c'est une œuvre majeure, une œuvre magnifique, un symbole, comme je le disais tout à l'heure, qui a fait connaître le nom de Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, d'ailleurs, nous le verrons, ça n'a pas été facile pour lui de construire cette tour. Il y a eu beaucoup d'opposition. L'histoire, tout le monde la connaît. Je pense que vous pourrez la lire dans mon livre. Mais enfin, en deux mots, si vous voulez, elle est dessinée par deux de ses ingénieurs, hein, Coquelin et Nouguier, qui font un dessin, qui présentent ce dessin à Gustave Eiffel, qui le trouve sans plus. Il dit oui, c'est pas mal, c'est pour l'exposition universelle de 1889. On est en 1885. Et il me dit, écoutez, habillez ça un petit peu, que qu'on voit un peu mieux ce que ça représente. Et ils font appel à l'architecte Sauvès qui l'habille. Et là, il le montre à Gustave Eiffel. Et là, il voit tout de suite l'intérêt, évidemment, cette tour pour laquelle il va se battre. Il va déposer ce brevet dès 1885. Il dépose un brevet à GDG avec l'image de la tour, le nom de la tour Eiffel. Il rachète le brevet à ses deux ingénieurs, qui sont quand même des ingénieurs de son entreprise, mais enfin, il respecte, il rachète les brevets de son ingénieur, et il leur dit, je vous associerai toujours au succès et à la gloire de cette œuvre. Il était persuadé que ça serait évidemment ce que c'est aujourd'hui, certainement, mais enfin, il y avait beaucoup d'inconnus. Hein. Le monument le plus haut du monde, c'était 150 mètres, 147 mètres, je crois, l'obélisque de Washington. Donc il se lance effectivement alors avec ses relations politiques, avec ses relations, on peut dire anciennes, et maintenant c'est un homme qui a réussi, hein, c'est un homme qui est connu. Il se lance dans la construction et dans la construction de la Tour Eiffel. Il a beaucoup d'opposition. Les artistes, il y a une pétition des artistes. Tous les artistes de l'époque sont contre. On dit que ça va défigurer Paris, que Notre-Dame ne représentera plus rien, que l'Arc de Triomphe n'existera plus, que c'est une horrible cheminée de tôle boulonnée. Enfin, Gustave Eiffel répond intelligemment en disant qu'il ne comprend pas pourquoi, ne l'ayant pas encore vu, les gens peuvent dire que ça ne sera pas une œuvre d'une certaine élégance. Et il se trouve que la Tour Eiffel est le fruit de calculs absolument mathématiques. Et comme quoi les calculs mathématiques amènent quand même à une certaine beauté, puisque l'image de la Tour Eiffel et ses courbures sont assez significatives, sont assez exceptionnelles. La Tour Eiffel, elle est montée en 2 ans, à peine de 250 ouvriers maximum. Le problème, c'est les fondations, puisque les deux piliers qui sont le long de la Seine trouvent un terrain gorgé d'eau. Gustave Eiffel invente des caissons, qui sont des caissons étanches, en fait, qui permettent de creuser en milieu inondé. Vous avez plusieurs émissions qui sont d'ailleurs, qui ont été reprises sur Eiffel, sur la construction de la tour Eiffel. Et dans mon livre, je le raconte. D'ailleurs, Gustave Eiffel, c'est très curieux, dans sa biographie industrielle et scientifique, il en parle assez peu, la construction de la tour Eiffel. Pour lui, c'était le fruit de tout son travail précédent. Il en parle, il y a, je crois, 2 ou 3 pages, simplement. Il dit, je ne reviens pas sur la construction de cette tour Eiffel, qui va rester. Par contre, il s'est battu, on peut dire, pour qu'elle soit là. Et il s'est battu surtout après pour qu'elle continue d'exister et qu'elle ne soit pas démolie. Puisque en 1910, la tour Eiffel devait être démolie. Elle est de justesse, on peut dire. Elle reste à Paris. Et Gustave Eiffel a mis vraiment tout ce qu'il pouvait de son côté pour qu'elle le soit. Il a fait des expériences scientifiques. Il a installé au 3e étage. Et c'est là que commence, on peut dire, sa période scientifique, qui est une période de 30 années aussi, hein, puisqu'il a construit pendant 30 ans et il a été pendant presque 30 ans un grand scientifique. La coupure, c'est Panama. En 1879, Gustave Eiffel est à un congrès de géographie à la demande de Ferdinand de Lesseps, qui venait de terminer le canal de Suez, et il préconise un canal pour Panama à Écluse. Ferdinand de Lesseps dit non, moi j'ai fait un canal à niveau. En fait, le canal à niveau me paraît être le mieux adapté pour Panama. Gustave Eiffel fait un exposé, il est même presque hué, il en a été d'ailleurs assez choqué. Et à la suite de cet exposé, on fait venir le vote et je crois qu'il n'a que 5 voix sur 90 voix pour le canal à Écluse. Donc il dit, bien écoutez, moi je ferai autre chose. Et là, il a fait la tour Eiffel, qui était pas mal. Et en 1887, Ferdinand de Lesseps, il rappelle Gustave Eiffel, parce qu'il a de grosses difficultés financières. Ils sont en train de creuser déjà depuis 5-6 ans. Il y a beaucoup de difficultés aussi avec les moustiques, bien sûr, à Panama. Mais enfin, il s'avère que la solution en canal à niveau est très onéreuse. Elle coûte très cher en hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup de d'éboulements, c'est très compliqué. La topographie du terrain ne permettait pas un canal à niveau. Et Gustave Eiffel le savait, il l'avait étudié. Et en fait, il rappelle Gustave Eiffel. Et Gustave Eiffel donc se met au travail et engage autour de lui un certain nombre de personnes qui vont travailler avec lui. Et il se prépare à prendre le pari incroyable, qui est à peu près un chantier enfin pharaonique, qui est la construction et la mise en place des 10 écluses du canal de Panama. S'engage donc à rendre ces écluses et à rendre le chantier en fin 1890. Il signe avec Ferdinand de Lesseps et il se fait payer, vu l'éloignement, vu les difficultés, vu la dangerosité du chantier. Il prend tous ses risques à sa charge et il se fait payer un petit peu d'avance, un petit peu, même beaucoup d'ailleurs, pour pouvoir amener le matériel sur place et pour pouvoir mettre en chantier les études. Il prend la maçonnerie, il prend les fouilles et il prend la construction des écluses. Pour montrer qu'il avance, dès 1888, on peut dire, il a entamé les 10 écluses, c'est-à-dire qu'il a fait les 10 fouilles. Il a fait moi j'ai les archives de Panama, parce que ça a été pour lui, on va voir tout à l'heure, une très grande difficulté dans sa vie. Et dans la vie de ma famille aussi, la famille a été très contrite par cette histoire de Panama. Contrite, c'est un mot faible. Elle a été, on peut dire, elle s'est presque cachée. C'était à ce moment, on peut dire à ce moment-là, ça a été donc une grande difficulté pour cet homme. Et on le verra tout à l'heure, Gustave Eiffel a été mené dans le scandale au moment de sa gloire. C'était l'extraterrestre Gustave Eiffel en 1889, quand il inaugure sa tour. Il reçoit là où personne, c'était l'homme qui était dans la Lune. Enfin, personne n'était monté à aussi haut sur un bâtiment. Il recevait le monde entier en haut de sa tour et lui est tombé dessus ce scandale sur lequel il ne s'attendait pas, vraisemblablement. Alors il s'est battu pour que enfin, nous le verrons tout à l'heure, mais il s'est battu pour pouvoir continuer le chantier déjà, après la liquidation. Donc fin 1888, il présente à Fernand de Lesseps tout son travail. On le sait, il a envoyé des locomotives, il a récupéré du matériel sur place, il est en train de construire la tour. C'est incroyable. Dans mon livre, je le montre, il y a un chantier de Gustave Eiffel, on le voit. En 1888, à Panama, alors qu'il est en train de, au deuxième étage de sa tour Eiffel, et qu'il est en train de monter entre du deuxième au troisième étage le monument le plus haut du monde, et de voir ça aujourd'hui, l'audace de ces hommes, c'était quand même fantastique, si vous voulez. Et il envoie quand même deux écluses qui sont montées à Panama. Deux écluses sont fabriquées à Nantes, qui sont des écluses, on voit la taille des écluses dans mon livre, ces écluses qui sont gigantesques. Et finalement, en 1889, il est obligé d'arrêter son chantier car la compagnie fait faillite dès début 1889. La compagnie fait faillite, elle ruine beaucoup de petits porteurs. C'est une affaire, en fait, beaucoup de gens sont enrichis, beaucoup de gabegies qui n'étaient pas de la faute d'Eiffel. Lui avait traité tout son travail à forfait. Il arrive à faire un accord avec le liquidateur. Il rembourse les sommes, une partie des sommes qu'il a reçues, et il remet au liquidateur tout son matériel qui est sur place, etc. Et il se retire de cette affaire en disant « c'est extrêmement dommage, mais si cette affaire repart, je reprendrai, dès 1889, il dit ça, je reprendrai départ dans la société de Panama pour pouvoir mener à bien ce chantier qui est mon plus beau chantier. » C'était pour lui, c'était un chantier pharaonique. La tour Eiffel était déjà derrière lui, si vous voulez. Et donc, il continue avec la tour Eiffel, bien entendu, à pouvoir à recevoir, et se lance dans des expériences scientifiques sur la résistance du vent. Il y a une station météo en haut de la tour. Il est en haut de sa gloire. Et en 1891, déjà, on sent des remous. Tous les petits porteurs qui ont été ruinés font pression sur le gouvernement pour lui dire il faut qu'il y ait un procès. Hein. Enfin, il faut que les gens soient jugés, Fernand de Lesseps soit jugé, tous ces gens-là qui ont fait perdre énormément d'argent à tout le monde soient jugés. Donc c'était un grand scandale. En fait, c'était une affaire. Les levées de fonds ont été faites en achetant des députés. Il y a eu l'affaire des Chécards. Il y a eu 103 députés qui ont été achetés. Le banquier Baron de Reynac se suicide, Ferdinand de Lesseps commence à être gâteux, il était très vieux, son fils Charles essaie de le défendre, et Gustave Eiffel évidemment est pris dans la tourmente, et en 1892 il écrit à ses associés dans sa société: je demande à ce que mon nom soit retiré de mon entreprise. Et pour ça, j'abandonne mes parts dans l'entreprise, ce qui est à peu près l'équivalent de 4,5 millions d'euros d'aujourd'hui. Il abandonne, en fait, il rachète son nom et il demande à ce que son entreprise change de nom. Elle s'appelle l'entreprise de Levallois-Perret. Et elle est, donc, cet acte est salué par les actionnaires. C'était avant le procès, c'est 6 mois avant le procès. Et au moment du procès, Gustave Eiffel est condamné. Il est condamné. On veut les journaux de l'époque, je le raconte dans mon livre, je prends sa défense, parce que pour lui, ça a été une grande difficulté. Les journaux de l'époque ne comprennent pas comment ce grand homme peut être condamné, comment cette chose-là arrive. Mais enfin, il tombe de haut, c'est la chute. Il a des menaces même, parce que, évidemment, c'est quelqu'un... d'après certaines personnes, on pense qu'il aurait été au courant de ces affaires-là. Et les petits porteurs veulent le dédommager. Il a gagné de l'argent, c'est le seul à avoir gagné de l'argent. Il se bat. C'est un homme déterminé, il se bat pour garder sa tour, parce qu'il sait que sa tour est démolie, donc il se réfugie un peu dans sa tour, on peut dire, ça pourrait faire presque un scénario de cinéma, hein, c'est incroyable. Et il repart, on peut dire, à zéro, pratiquement, l'homme est quand même très, 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 très triste. Sa famille aussi, la famille, on ne parle pas de Panama, on ne parlait pas de Panama dans la famille. Dès qu'on parlait de Panama, tout le monde pleurait. Il se lance dans la science. Et c'est là que l'apport de Gustave Eiffel dans la science a été, on peut dire, une révélation, puisqu'il a inventé l'aérodynamisme moderne, il a inventé la météo moderne, c'est lui qui a fait les premiers atlas de météo moderne. Et il a favorisé les premières liaisons de radiotélégraphie sans fil entre le Panthéon et la Tour Eiffel, avec une antenne qu'il installe à ses frais en haut de la Tour Eiffel. Donc il arrive à garder cette Tour Eiffel, il arrive à montrer l'utilité, etc. Beaucoup de gens lui tournent le dos. En 1893, le procès se passe. Il est condamné, mais il est acquitté. Il n'est pas acquitté. Enfin, le procès ensuite en cassation, il est blanchi complètement. Et la Légion d'honneur le blanchit définitivement. Le général Février lui dit, Monsieur Eiffel n'a fait aucune malversation, n'a rien fait du tout. Mais enfin, si vous voulez, il n'y a pas de fumée. Vous voyez ce que je veux dire, tout le monde était quand même, ça a été difficile après. Et donc, il a travaillé, on peut dire, vraiment dans c'est en cela que je trouve que cet homme est remarquable. C'est comme tous les héros, si vous voulez. Les héros, ce sont les gens qui ont quand même des grandes difficultés. Ce n'est pas ceux où tout est ouvert et tout est facile. Il est passé à deux doigts à chaque fois de désastre, on peut dire. Hein. Et il est arrivé à s'en sortir. Et en ce sens, j'ai beaucoup d'admiration pour cet homme. Alors la tour, bien sûr, qui porte son nom, est un exploit technique, invraisemblable pour l'époque. Aucun constructeur n'avait jamais réussi à édifier un ouvrage aussi élevé. Chaque pièce a été l'objet d'une étude particulière en demi-grandeur pour les petites pièces, à l'échelle du cinquième pour les plus grandes. En raison de la courbure de la tour, chaque élément sur chaque face est différent des autres. C'est presque un sur-mesure intégral. La plupart du travail se fait en atelier. Chaque pièce est découpée et préassemblée. Aucune pièce ne pèse plus de 3 tonnes. Poids limite pour les grues, justement, on parlait des grues tout à l'heure. Après vérification d'atelier, les pièces sont contrôlées en arrivant sur le chantier. En cas de défaut, elles sont renvoyées en usine. Donc pour Panama, c'est ce que je disais, Eiffel s'engage à titre personnel, il engage sa fortune, il engage tout pour construire une dizaine d'écluses, à les transporter à des milliers de kilomètres de la France, à les monter, à mettre en service une voie d'eau de 74 kilomètres, et tout ça dans un délai de 30 mois. Il reprendra 10% des parts du canal de Panama en 1894, lors de la constitution de la nouvelle compagnie interocéanique du canal de Panama. Il les gardera ses parts jusqu'en 1904. Et là, comme c'est un homme d'affaires aussi, c'est assez rare de le signaler, Louis Eiffel était un ingénieur, mais aussi un homme d'affaires. Eh bien, en 1902 exactement, il revend ses parts aux Américains, qui finiront le canal en 1914. Ils mettront 10 ans à terminer le canal sur les plans de Gustave Eiffel. Et à l'entrée du canal de Panama, il y a une stèle qui rappelle la contribution de Gustave Eiffel. D'ailleurs, mon livre est préfacé par son Excellence l'ambassadeur de Panama. Car quand j'ai été raconter ça à l'ambassadeur de Panama, il était lui-même incroyablement surpris. Il a dit « c'est pas possible, c'est très bizarre. Aucun Panaméen ne sait que le canal est français. » Or, le canal de Panama, c'est un canal français. Un canal qui a été par Ferdinand de Lesseps, imaginez, et construit par les Français. Les Français ont contribué à cette construction pharaonique. Il a été terminé par les Américains, évidemment, mais personne, aucun Panaméen, ne sait que les Français ont participé à cet exploit. Ensuite, ces derniers projets ne verront pas le jour. Il avait conçu le premier projet du tunnel sur la Manche, préconisait la construction d'un observatoire sur le Mont Blanc. Il a proposé aussi des plans pour le métro aérien avec un tracé facile. Ça n'a pas été suivi des faits, mais il s'est donc mis dans la science, et la science a été pour lui véritablement, je ne sais pas si c'était sa repentance, mais ça a été, il a été passionné. Il a jusqu'à l'âge de 85 ans, pardon, il allait tous les jours à son laboratoire. Au début, il avait une soufflerie qu'il avait construite au pied de la Tour Eiffel, parce qu'il y avait l'électricité qu'au pied de la Tour Eiffel. Et en 1912, la ville de Paris avait demandé à ce que cette baraque de tôle, en fait, parce qu'il est reparti dans une baraque de tôle, vous voyez, les passants le voyaient travailler, Monsieur Eiffel, au pied de la tour pour étudier la force du vent, ce grand monsieur qui venait de construire la tour. Il avait été tellement, donc il était là avec sa canne et il travaillait finalement, il faisait les études sur la force. Et c'était un grand patriote parce qu'il a pu, améliorer au moment de la guerre, les techniques d'obus, les avions, c'est lui qui a inventé notamment les accroches des obus sous les ailes des avions. Au début, les pilotes, ils avaient les obus sur les genoux et ils l'envoyaient en piquaient comme ça, au but de la guerre de 14, et ils envoyaient ça de manière tout à fait au visu. Ça marchait un coup sur deux, même quand les pilotes se tuaient pas. Et puis, c'est lui qui a, par ses études en soufflerie, c'est lui qui a inventé que la force de sustentation au-dessus des ailes était deux fois plus forte que la force de portance. C'est-à-dire le dessus de l'aile, il y a deux fois plus de pression vers le haut que sous l'aile. Ça, c'est lui qui avait trouvé ça. Les aviateurs de l'époque ne comprenaient pas pourquoi les ailes se déchiraient. Et elles se déchiraient toujours par le haut. Elles étaient entoilées et ils mouraient. En fait, c'est Gustave Eiffel, en construisant des maquettes, a sauvé la vie de beaucoup d'avionneurs aussi. Et il a ensuite, parmi ses faits de gloire, c'est lui qui a mis au point l'hélice éclair, celle qui a fait la fortune de Marcel Dassault quand même. Marcel Dassault, aujourd'hui, j'avais envoyé à Olivier Dassault un petit mot sur les études de l'hélice éclair, puisque j'ai la chance d'avoir de très très bonnes relations avec le laboratoire aérodynamique Eiffel et son conservateur, Martin Peter, avec qui je fais souvent des conférences. Martin Peter est arrivé à conserver, à classer cette soufflerie Eiffel, qui est donc la soufflerie qui est rue Boileau dans le 16e arrondissement de Paris. Gustave Eiffel a construit une soufflerie. Et aujourd'hui, Sébastien Loeb s'est retiré des rallyes. La voiture de Sébastien Loeb a été soufflée, a été mise au point aérodynamiquement avec le propre matériel de Gustave Eiffel. C'est ce qui est incroyable. Incroyable. Et 9 fois championne du monde, la Citroën de Sébastien Loeb. Donc, le propre matériel de Gustave Eiffel a aussi permis de souffler l'étoile filante. Et ça a permis de souffler la première Peugeot de course, je le raconte dans mon livre aussi, en 1913, je crois, ou 14. Toutes ces inventions, il les faisait gratuitement, il faisait des publications. Et si bien que les frères Oscar et Wilbur Wright, qui ont été les premiers à voler en 1903 ou 1906, avaient fait un premier vol expérimental, avaient reçu une médaille Langlais à New York. Gustave Eiffel a été le second en 1918, je crois, à recevoir la médaille Langlais à New York. Ce qui était quand même exceptionnel. C'était le seul. Il y a les premiers qui ont volé et le second qui a reçu cette médaille américaine de la plus grande institut, Smithsonian Institute, c'est Gustave Eiffel qui l'a reçu. Il a été reconnu par ses pairs comme étant un pionnier de l'aviation moderne. Il a été reconnu par ses pairs comme étant le pionnier de la météo, puisqu'il a été président de la Société de la Météo de France à la fin de sa vie, président président de la... Enfin, il a eu beaucoup de titres. Je les ai tous mis dans mon livre. Vous les verrez, je ne me souviens plus. Mais enfin, si vous voulez, c'est très intéressant de rentrer dans la vie de cet homme-là, de s'en inspirer. C'est ce que j'ai fait. Je vous ai raconté pourquoi je l'ai fait. Je ne suis pas... Et c'est pour moi un très grand plaisir d'avoir écrit ces livres. Alors, j'ai écrit un livre qui a publié chez Michel Lafon, qui est un grand livre, qui raconte tout ce que je vous ai expliqué. Et ensuite, j'ai écrit une bande dessinée. Alors, ces livres se vendent à la Tour Eiffel assez bien et ça me donne quelques revenus. Voilà, c'est pas plus mal. Voilà. Et ces livres, le grand livre, en tout cas, qui est Eiffel par Eiffel, il est traduit en plusieurs langues. Il était traduit en portugais, donc on l'a vendu au Brésil. Ça s'est pas mal vendu. En allemand, et c'est pas mal vendu aussi en Allemagne. Et en anglais, évidemment, et en espagnol. Et en français, bien sûr. Vous voyez, c'est un livre quand même qui aujourd'hui a une certaine vie. Donc ça me fait plaisir parce que tous ceux qui l'ont lu, j'ai pas eu de gens qui m'ont dit des choses fausses ou des. Oui, donc et en même temps, il est bien illustré. Il est assez facile à lire et que ça raconte une épopée. Ça raconte c'est l'histoire de France, hein, parce que il y a eu quand même tous ces gouvernements, la guerre de 70, tout ça, il faut pas l'oublier. Donc il y a eu quand même beaucoup d'événements. Et Gustave Eiffel s'en est toujours sorti. Et on peut dire qu'il est. C'était le patriarche, c'était quelqu'un qui était très proche de sa famille, qui était très attentif à sa famille. Et la famille s'est toujours extrêmement bien entendue. Et Gustave Eiffel y a toujours veillé. Même s'il a favorisé les uns et les autres, C'est peut-être aujourd'hui à la troisième génération qu'il peut y avoir encore quelques jalousies, c'est possible. Mais enfin, voilà, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais si vous voulez, il se trouve que moi, ce qui m'intéresse, j'ai des souvenirs extrêmement doux, contrairement à d'autres dans ma famille. J'ai eu la chance de vivre avec Valentine. Valentine avait épousé un Corse. Qui a été directeur de cabinet de M. Delcassé pendant 30 ans, qui était ministre des Affaires étrangères et ministre de la guerre. Donc c'était un monsieur qui était très, très proche du monde politique, qui s'entendait très bien avec Gustave Eiffel, bien sûr. Et lui avait aussi une fortune importante. Et donc, Valentine avait aussi... Donc j'ai des souvenirs doux, parce que ça me changeait des écuries. Quand je sortais de mon écurie, après tout, j'allais à Paris, j'étais dans des hôtels particuliers, j'étais dans des très jolies propriétés, aussi bien en Suisse qu'à Beaulieu-sur-Mer, qu'en Bretagne, à Trouville, à Sèvres. On avait une jolie propriété à Sèvres. Valentine avait une très jolie propriété à Sèvres, il y avait 10 hectares avec un magnifique château des Bruyères. Et donc tout ça, je l'ai connu enfant. J'ai eu la chance de le connaître. J'avais l'impression que tout était facile. Et quand je revenais aux écuries, je me recevais un bon coup de canne de mon père qui me disait « Maintenant, il faut que tu ailles faire les boxes. » Bon, voilà. Donc, ça s'est mélangé entre les deux. Voilà. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pour moi un grand plaisir, donc, effectivement, de pouvoir parler de cette aventure, de pouvoir parler de mon ancêtre. J'ai gardé beaucoup de souvenirs. Et maintenant, j'y fais attention et je suis en train d'écrire un troisième ouvrage. Merci beaucoup.